Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau hors-série. Et aujourd'hui, c'est ma pause et je me rends pas très loin de la rue Masson, au 5175 4e Avenue à Montréal. Je m'en vais rencontrer M. Michel Leduc pour parler d'une curieuse mine d'or cachée dans un endroit assez insolite, un logement d'un quartier résidentiel. Je parle ici de la collection Normand Leduc. On parle ici d'une collection de plus de 25 000 livres qui sont disponibles à l'achat. On y retrouve d'ailleurs plusieurs ouvrages assez anciens. Par exemple, j'ai mis la main sur certaines éditions qui dataient de 1865. Il y a une très grande variété de livres, dans tous les domaines, de la poésie québécoise à la philosophie, en passant par l'histoire et la géographie. On retrouve aussi beaucoup de livres sur la religion et l'ésotérisme. Sans oublier une grande quantité de romans de fiction. Bref, de quoi faire baver les amoureux de la littérature, désireux d'enrichir leur bibliothèque de quelques bons livres. Et là, en parcourant les lieux, je me suis posé une question. Comment fait-on pour amasser une aussi grosse collection? Et c'est justement M. Michel Leduc, le frère de feu Normand Leduc, un homme bien sympathique, qui m'a répondu.
Je m'appelle Michel Leduc. J'ai enseigné, j'ai fait des études en littérature et en histoire à l'Université de Montréal. Mon frère a été bibliotechnicien, il a travaillé au service du catalogue à l'Université de Montréal. On a été dans les livres une très grande partie de notre vie. Mon frère est décédé il y a quelques années. Il avait amassé sur une période de 60 ans une collection de livres d'environ 40 000 livres. Pour donner une idée de cette collection de livres-là, quand la Bibliothèque nationale du Québec a déménagé sur Maisonneuve, ils ont pris tous les livres qu'il y avait à la Bibliothèque Saint-Sulpice, qui avait ramassé des livres pendant pas loin d'un siècle. Ils ont tous rapaillé ces livres-là et ils ont envoyé sur Maisonneuve. Ils en ont déménagé 63 000. Mon frère en avait près de 40 000.
Mais là, il faut m'expliquer, comment qu'on fait pour accumuler autant de livres? 40 000, c'est pas rien.
Bien, c'est assez une histoire particulière. Quand on était jeune, on vient du quartier Hochelaga-Maisonneuve, d'une famille très pauvre. Ma mère, elle achetait notre linge aux glaneuses. Les glaneuses, c'était un organisme semblable au chaînon qui ramassait un peu de tout. Et avec cet argent-là, bien, il aidait les femmes qui en avaient besoin, là, qui avaient des difficultés. Alors, ma mère, elle nous amenait aux glaneuses pour acheter notre linge. À un moment donné, la directrice allait aller voir ma mère. On avait à peu près, nous, à cette époque-là, on avait peut-être, moi, j'avais peut-être 8 ans, puis mon frère 9 ans. La directrice a dit, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper des livres. Est-ce que vous accepteriez que vos enfants viennent ici, et qu'ils s'occupent des livres? Mais ma mère a dit oui. Alors, notre travail consistait à aller placer les livres sur des tablettes dans le magasin et à faire les prix. Les prix, c'était pas compliqué. On n'avait pas besoin d'être très instruit. Les petits, c'était 5 cents. Les gros, 10 cents. Puis la directrice a dit, les livres que vous voulez avoir, là, autant que vous êtes raisonnable, vous pouvez les prendre. C'est comme ça que mon frère a commencé à acheter des livres, mais pas acheter des livres, à prendre des livres, puis à les collectionner, puis à augmenter sa collection. Un an plus tard, on a perdu notre mère qui est décédée. Mon père a fait une dépression nerveuse. Il nous a placés dans un orphelinat. On a vécu 5 ans dans un orphelinat, à l'époque, dans le début des années 50. Puis mon frère n'était pas sportif, il était très timide, très réservé, gêné. Introverti. Alors, il s'est réfugié dans les livres. Là-bas, il lisait, parce qu'il y avait une petite bibliothèque. Quand on est sorti de l'orphelinat, il avait 15 ans, moi j'avais 14 ans. Puis à partir de l'âge de 15 ans, mon frère a commencé à ramasser des livres, à les collectionner. Il a fait un cours secondaire complet, plus un an aux arts graphiques. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'enseignais dans une école secondaire avec des élèves en difficulté. Alors, dans le système d'enseignement, les professeurs qui ont le plus d'expérience, c'est eux qui choisissent leurs tâches. Alors, ils choisissent toujours les meilleures classes, les classes les plus faciles. Puis c'est le nouveau qui va avoir les élèves les plus difficiles. C'est la logique, ça, dans l'enseignement. Alors, moi, je trouvais ça très, très, très dur. Alors, j'ai dit, je vais aller faire une licence à l'époque, on appelait ça une licence. Je vais aller faire une licence en littérature avec une mineure en histoire. Puis, je vais pouvoir enseigner au cégep. Mais là, enseigner à des élèves en difficulté, puis suivre un cours, c'était trop, beaucoup trop difficile. Fait que j'ai abandonné. Mais avant d'abandonner, la première année, à un moment donné, sur la Babillard, à l'Université de Montréal, j'ai vu qu'il avait affiché un poste. Il demandait un bibliotechnicien. Fait que j'ai été voir mon frère quand je suis revenu à la maison. Je disais, hey, Normand, ils ont besoin d'un bibliotechnicien, toi, avec tous les livres. Là, j'ai sauté une étape. Là, il était rendu dans la vingtaine. J'ai dit, hey, on va y aller ensemble. On va leur envoyer ton CV quand il y aura un rendez-vous. Ben, je vais y aller aussi avec toi. On y était. Puis là, ben, il y en a des CV, il y en avait. Puis ce qui est arrivé, assez bizarre, c'est que le monsieur qui a sélectionné pour l'emploi, il a sorti un CV. C'était un de ses amis qui s'appelait Normand Leduc. Fait que c'était automatique. Il a pris celui-là, puis il dit, c'est lui, je vais donner l'emploi à mon ami. Fait que là, il a appelé Normand. C'était pas le bon dossier. Ça aurait dû être un dossier d'un autre. Fait que c'est mon frère qui était appelé. Puis là, quand il s'est rendu à son bureau, le monsieur l'a regardé. Hein, il dit, comment? Il dit, c'est pas vous? Fait que là, ben, il était tout surpris. Là, ben, quand il a vu qu'il s'était trompé, qu'il avait choisi un autre Normand Leduc, ben, il l'a pris quand même. Il dit, je vais vous engager. C'est comme ça qu'il a eu un emploi que bibliotechnicien à l'Université de Montréal. Il a passé pratiquement toute sa vie...
Oui, mais dans le fond, le hasard fait bien les choses.
Oui, oui, puis c'est le hasard, hein, ceux qui disent que le hasard n'existe pas, mais c'est un exemple qui prouve vraiment que le hasard existe. Puis il a amassé des livres, Il y a de la maison, bien, il avait hérité de la maison. Il avait quand même des bonnes conditions, un très bon salaire à l'université. Puis il a dépensé toute sa vie, tout son argent, pendant 60 ans, parce qu'il en a acheté jusqu'à 75 ans. Il a appris comment choisir les meilleurs livres par son travail. Quand il faisait les fiches, les descriptions de la fiche, du livre qui était parfois commandé par des profs, ben il disait, ah, ce livre-là, il est intéressant. Ben, quand il avait fini de travailler, il s'en allait dans les librairies, puis il achetait le livre. Il a fait ça pendant toute sa vie. Puis il faut dire que les 5 ans qu'on a passé à l'orphelinat, mon frère, il s'est réfugié dans les livres. C'était une période très, très difficile dans la vie de mon frère, parce que lui, il n'était pas sociable, il n'aimait pas jouer, il n'aimait pas les sports, puis il était peu heureux.
Dans le fond, il s'est réfugié dans les livres, c'est là qu'il a trouvé sa sécurité.
Oui, oui, il s'est réfugié dans les livres. Ça explique en grande partie pourquoi il a ramassé autant de livres.
Puis c'était à tous les jours qu'il achetait un livre?
Pratiquement, oui, parce qu'il achetait un livre, là, parce que... Il voyait une référence, il disait, ce livre-là est intéressant. Là, quand il avait fini de travailler, il allait l'acheter. Puis là, il commençait à le lire. Mais le lendemain ou deux jours après, il voyait encore d'autres livres intéressants. Puis là, ben, il était un peu amasseur compulsif. Hein. Il était pas capable de se contrôler. Bien là, il achetait le nouveau livre, mais il en avait commencé un. Puis là, ben, il en avait un nouveau. Puis c'était comme ça, c'était perpétuellement, toujours avec un nouveau livre. Quand mon frère est décédé, son fils, il y a eu un garçon, quand j'étais au salon mortuaire, il m'a dit, ah, il dit, moi, je ne veux pas les garder, les livres. Fait que moi, je suis arrivé ici, là, au 51-75, 4e avenue, sa propriété, il demeurait ici. Quand il est décédé, j'étais au salon mortuaire, c'est là qu'il m'a dit que, non, il dit, moi, je veux pas les garder, les livres. Fait que j'ai dit, ça va me faire plaisir, Martin, de m'en occuper. J'avais quand même une bonne connaissance des livres. Mais je ne savais pas, moi, que mon frère avait autant de livres. Je croyais qu'il y en avait à peu près 2 000-3 000. Quand je suis arrivé ici, quand j'ai fait l'évaluation, là, combien il pouvait y avoir de livres, c'était près de 40 000. Puis quand la Bibliothèque nationale a déménagé sur Maisonneuve, puis ils ont pris les livres de la Bibliothèque de Saint-Sulpice, il y en avait 63 000, eux autres, ils en avaient ramassé 63 000 sur 100 ans. Sur 100 ans, mon frère... Il en avait ramassé 40 000.
C'est pratiquement comme une bibliothèque de quartier. Là.
C'était, oui, ça aurait pu être une très belle bibliothèque de quartier, d'autant plus que Il achetait de tous les genres de livres. Quand il voyait qu'un livre était intéressant, il l'achetait, c'était une pulsion, il n'était pas capable de se retenir.
Ici, il y a comme une sorte de déformation professionnelle. Puis c'est intéressant parce que normalement, dans une collection chez quelqu'un, on va retrouver quand même certains intérêts qui vont être un peu plus centralisés. Justement, comme dans une bibliothèque. Malgré tout, il y a quand même un axe qui est un peu plus omniprésent dans la collection.
C'était les livres de religion ou de spiritualité.
Oui.
Il y en a beaucoup.
Ça, c'était un intérêt personnel de son côté. J'imagine qu'il devait les lire un peu plus.
Non, parce qu'il en achetait tellement que son intérêt changeait à mesure. Quand il en achetait un nouveau, son intérêt était sur le nouveau. Alors, il arrêtait de lire celui qu'il lisait. Puis c'est un mouvement perpétuel, là. Pour marquer ses pages, dans ses livres, il laissait des papiers, des factures, des reçus, de la publicité, des fiches. Dans ses livres, en moyenne, il y avait entre 5 et 20 papiers. Heureusement qu'il ne marquait pas des lignes avec un crayon feutre ou qu'il ne pliait pas les pages. Quand il prenait des notes, c'était sur une petite feuille.
Ouais. C'est pas une personne qui était du genre à justement gribouiller.
Non. Il était extrêmement possessif, mon frère. Quand j'étais jeune, j'étais avec lui. Il voulait même pas que je touche à ses livres.
Non, il les prêtait pas.
Non, il les prêtait pas du tout. Puis il voulait pas les vendre.
Ah oui, OK.
À un moment donné, Martin lui avait dit, ça n'a aucun sens, là, papa. Il faudrait que tu fasses un ménage, puis que ceux qui ne t'intéressent plus ou qui ne sont pas en bon état, que tu devrais les vendre. Il n'a jamais voulu. Puis à chaque fois qu'on est déménagé, quand on était plus jeune, il a toujours gardé ses livres. Il ne voulait pas faire de ménage, faire un tri, non.
Ici, justement, ça c'est resté dans le même logement. Ça n'a pas eu à être déménagé. Ça aurait été épouvantable de bouger tous ces livres-là.
Oui, mais avant qu'il y en ait une quantité aussi considérable, comme il a commencé à en acheter à 15 ans, mais à 15 ans, il n'y avait pas beaucoup d'argent, fait qu'il n'en a pas beaucoup acheté. Puis il en a perdu quelques-uns de ces livres-là, mais ce n'était pas des livres tellement intéressants. On a déménagé parce qu'on était quand même pauvres là, dans notre famille. On a déménagé plusieurs fois, mais à chaque fois qu'on déménageait, il y avait toujours plus de livres. Je me souviens, on demeurait sur la rue Rouen, près de Cuvilliers. Il y avait peut-être 500 livres. On était jeunes, j'avais peut-être 18 ans, lui avait peut-être 19 ou 20 ans. Puis on est déménagé sur le boulevard Pineuf, près d'Hochelaga, dans un troisième étage. Puis là, quand on a déménagé, il y en avait peut-être près de 2000. Là, j'ai dit à Normand, je vais encore t'aider à déménager tes livres, mais tu vas faire un ménage, tu vas faire un tri, puis ceux qui ne t'intéressent pas, ben, tu vas t'en départir ou tu vas les donner. J'ai dit, je vais t'aider à une seule condition, que tu le fasses. Il n'a jamais voulu le faire. Ben, je ne l'ai pas aidé à déménager. monter ça dans un troisième étage, là, c'est quelque chose. Puis ça l'a toujours augmenté parce que il achetait continuellement des livres.
Dans la collection, je remarque qu'il y a aussi des livres assez anciens. J'ai vu des éditions qui dataient de 1860. J'imagine donc qu'il achetait autant du neuf que du usagé à l'époque.
Oui, mon frère, il achetait, je pourrais dire, au moins le quart de ses livres, le tiers de ses livres, c'était il les a achetés neufs, au prix neuf. Mais il en a acheté beaucoup aussi dans les librairies de les usagers. Il était connu à peu près de tous les libraires à Montréal.
Ah oui, c'est un bon achat.
Quand le libraire voyait arriver Normand, là, il se frottait les mains et disait « Bon, je vais faire une bonne journée aujourd'hui.
» Quand vous avez accepté de vous charger de la vente justement des livres, ça ne devait pas se trouver dans l'état irréprochable dans lequel ça se trouve maintenant. Là. Maintenant, tout est bien classé, sujet par sujet. On se croirait dans une bibliothèque.
Mais quand je suis venu ici, là, il a été exposé le samedi et le dimanche. Quand Martin m'a demandé si je voulais m'occuper des livres, j'ai dit oui, ça va me faire plaisir. Je suis venu le lundi. Quand j'ai vu ça, là, j'étais découragé. Je disais, hey, j'aurais jamais dû dire que je vais m'en occuper. Il y en a beaucoup trop. Ça m'a pris 3 ans pour faire le classement. Premièrement, il y en avait tellement que je me suis dit, je ne serais jamais capable de les classer. Il y avait, ici, il y avait 100. Ils n'étaient pas bien placés, ces bibliothèques. Surtout au sol, ils étaient toutes placées n'importe comment, ces bibliothèques. Mais il y avait à peu près 100 bibliothèques. Si on met à peu près 200 livres par bibliothèque, ça veut dire que ça fait 20 000 livres. Il y en avait peut-être entre 35 et 40 000. Il y aurait eu besoin de 100 bibliothèques supplémentaires pour mettre ces livres. Mais c'est tous ces livres-là qui n'étaient pas dans les bibliothèques, ils étaient tous à terre, empilés. Puis souvent, bien, quand il revenait d'acheter des livres dans une librairie, il prenait son sac, puis il descendait rapidement au sous-sol pour pas que sa femme voit qu'il avait encore acheté des livres. Puis là, il empilait les sacs un par-dessus l'autre à terre, dans les rangées.
Ça en était comme un peu maladif. C'était comme une addiction ou une dépendance à l'achat des livres dans le
fond. Oui, c'est un peu semblable. C'est un peu semblable aussi aux gens qui avaient des tocs, là, qui ramassaient tout, puis... Ouais, ouais. Sauf que mon frère, il ramassait quelque chose, souvent que c'était des livres qui étaient intéressants, qui avaient de la valeur, puis qui ont été bien conservés. Parce que
il était quand même sélectif.
Oui, il était très, très sélectif. Sauf vers la fin, là, il commençait souvent à acheter des livres. Je ne sais pas s'il recevait en cadeau ou s'il y a des gens qui lui donnaient des livres. Il achetait des choses plus ou moins intéressantes. C'est sûr qu'il ne les achetait pas pour les lire, parce qu'il ne lisait pas ce genre de livres-là. Okay. Mais... Il les trouvait intéressants, il les prenait quand même. Il y avait peut-être une déformation de bibliothécaire en disant ben, je vais acheter des livres dans tous les domaines.
C'est ça qui est d'ailleurs frappant, parce que justement, on retrouve de tout dans cette collection-là.
Oui.
Est-ce que pour mettre de l'ordre dans tout ça, il a fallu que vous achetiez des nouvelles bibliothèques? Parce que j'imagine qu'il n'y en avait pas assez pour tout classer ça.
Il y en avait quelques-unes qui ont été faites par un menuisier, là. Puis les autres, ben, ils les achetaient un petit peu d'occasion, là. Ils devaient les acheter dans des magasins qui vendaient des meubles. Puis à chaque fois qu'ils trouvaient une bibliothèque, ben ils l'achetaient. Je pense qu'il a dû faire ça pendant un certain temps. Quand j'ai vu qu'il y en avait une aussi grosse quantité, je me suis dit, je ne serais jamais capable de classer les livres. Puis les 20 000 livres à peu près qui sont à terre, il n'y a pas de bibliothèque pour les mettre, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, j'y ai pensé, il y avait une librairie sur Masson, juste avant d'arriver chez Maxime, qui s'appelait Le Puits du Livre. C'est une librairie d'occasion qui fonctionnait seulement avec des dons. C'était une librairie communautaire. J'ai été voir le propriétaire, il s'appelait Sébastien. J'ai dit, Sébastien, j'ai dit, mon frère, il est décédé. Puis, il y a tellement de livres, il y en a plusieurs que je ne veux pas garder. Et serais-tu intéressé à les avoir? Il a dit oui. Bien, j'ai dit, je vais t'en mettre sur une table, puis je vais t'appeler, puis tu viendras les chercher. Fait que j'en mettais à peu près 300-400 sur une table. Il venait les chercher, là, je l'aidais à mettre ça dans sa camionnette, puis là, il s'en retournait. Puis à chaque fois que la table était pleine, j'en avais encore 300-400 sur la table, là, je l'appelais. Des fois, il venait deux fois par semaine, des fois une fois par semaine. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. J'ai évalué que j'y avais donné près de 10 000 livres. Tous ces livres-là, il fallait que je fasse quelque chose. J'aurais jamais pu classer tous les livres qu'il y avait. Fait que là, 10 000 livres, c'était quand même une bonne quantité. Là, je commençais à voir clair. Puis là, j'ai dit, bon, mais je vais les classer comment? Parce que là, je ne savais pas les quantités qu'il y avait. Y a-tu combien qu'il y a de romans? Y en a-tu 200? Y en a-tu 2000? Les livres de religion, y en a combien? Des livres d'histoire, des livres de psycho, de philo? Fait que là, je me suis dit, bien tiens, je vais pas, d'abord, j'ai peut-être pas pris de bonne méthode, mais en tout cas, j'ai pris cette méthode-là. Je me suis dit, tous les livres qui datent de plusieurs années, je vais les mettre au rez-de-chaussée, puis tous les livres récents, je vais les mettre au sous-sol. Fait que là, tous les livres qui étaient récents au sous-sol, je les ai montés au rez-de-chaussée, puis tous les livres qui étaient au rez-de-chaussée, qui n'étaient pas récents, je les ai descendus.
Ça a dû faire beaucoup d'aller-retour, disons-le.
Ah, c'est... Mais comme ça, là, ça m'a permis de les manipuler puis de les mettre par ordre. Okay. Mais il y avait certains livres qui avaient commencé à mettre par ordre, mais ils avaient tout empilés les uns sur les autres. Comme les livres de psychologie, ils étaient tout empilés les uns sur les autres. Ils n'étaient pas dans des bibliothèques. Il y avait pratiquement la moitié de ces livres, c'était dans des sacs. Okay. Donc, ces livres-là n'étaient pas classés du tout.
Fait que c'était tout un job de sortir les livres des sacs. Puis en plus, j'imagine que ça rend l'évaluation un peu plus difficile vu qu'on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dans chacun des sacs.
Oui, oui. Mon frère, il a ramassé 7 gros sacs de vidange, là, les gros sacs de vidange. Ces 7 gros sacs de vidange-là, je les ai tous remplis de sacs, empilés. C'est pour te donner la quantité de sacs qu'il y avait.
Puis ça vous a pris combien de temps faire de l'ordre dans tout ça?
Moi, ça m'a pris 3 ans pour classer les livres, puis faire les prix.
Oui.
Faire les prix, je me suis demandé comment je vais fonctionner pour faire les prix. Je voulais quand même pas aller trop vite, mais en même temps, je voulais pas trop prendre mon temps. Parce que je m'apercevais que ça serait long. Fait que j'ai décidé, bien, je vais faire des prix, toujours les mêmes prix. 5 $, 10 $, 15 $, 20 $. Parce que si j'avais pas fait ça, à chaque fois que j'aurais pris un livre, là, j'aurais dit, bon, je le vends-tu 5 $, lui 6, 7, wow. Je le vends-tu 4, là, ah, celui-là, je le vends-tu 10? Est-ce que je le vends 8? Est-ce que je le vends 12? J'ai dit 5, 10, 15, 20. Puis j'allais vers le plus bas. Fait que j'arrivais à moi, oh, 5 $, l'autre 10 $, l'autre 5 $, l'autre. Ça a été assez rapidement. C'est comme ça que j'ai réussi à aller assez vite pour, je ne sais pas combien de mois que ça m'a pris, mais au total, ça m'a pris 3 ans pour classer et faire les prix. Puis que la collection de Normand puisse être mise en vente. Là.
Ça paraît peu de temps, à mon avis, quand on regarde la quantité de travail.
Ah oh, oui, oh, c'était. Je ne savais pas si j'avais la santé pour le faire, là, mais j'ai réussi à passer au travers.
Ben, d'ailleurs, c'est tout un accomplissement.
Oui, oui. C'est le travail le plus dur que j'ai fait dans ma vie.
Ah, oui.
J'ai rien fait de plus aussi dur, aussi difficile dans ma vie que ça.
Là, maintenant, désormais, il vous reste le travail de la vente des livres.
Oui, là, c'est un travail facile puis agréable. Là. Au tout début, on a fonctionné par rendez-vous, mais au tout début, on a essayé de la vendre en bloc.
Okay.
Il y a des gens qui sont venus, mais quand ils ont vu la quantité de livres, ils sont repartis.
Ah oui, OK.
Il y en avait trop.
Comme en bloc, vous
ouais, c'est quelqu'un qui voudrait partir une librairie de livres d'occasion avec 25 à 30 000 livres. Là. On en a à peu près 25 000 ici, puis on en a 5 000 d'entreposés. Fait que quelqu'un qui aurait acheté ça, c'était trop. Il y en a qui ont dit on en achèterait, je sais pas, moi, 5 000, 6 000, 10 000, mais il y aurait sélectionné. Puis nous, on voulait pas que quelqu'un arrive et prenne les 5 meilleurs, les 5 000 meilleurs, les 10 000 meilleurs, puis qu'on reste prêt avec les autres. Fait que Jean-Martin, on serait peut-être mieux d'essayer de les vendre à l'unité, puis on va faire venir des gens.
Ouais.
Puis c'est beaucoup plus agréable, puis en même temps, c'est plus intéressant. Puis on sait que les livres, ceux qui les ont achetés, bien...
Les achètent
pour les livres. Pour les
livres, c'est
ça.
C'est juste une question de... Ils les achètent en considérant leur valeur, au ouais. but de les revendre.
Ouais. Mon frère, il était collectionneur, mais il ne recherchait pas un livre pour sa valeur. Il fallait que le livre soit intéressant. C'était son principal critère. Même s'il savait qu'il ne lirait pas. Il y a des livres là, qu'il a achetés et qu'il n'a jamais lus. Comme tous les livres de philosophie, là, je pense qu'il n'y en a pas un qui a lu.
Okay.
Parce qu'il y avait... Moi, je me suis servi du principe que s'il n'y avait pas de papier dedans, c'est parce qu'il ne l'avait pas lu. Bon, il a acheté des livres des livres de science, il n'en a presque pas lu. Mais il lisait des choses sur la science dans les revues, comme Science et vie, là.
Ouais.
Science et avenir.
Oui, oui.
Ça, c'était vulgarisé. Il lisait.
Si on s'attarde sur la collection elle-même, en termes de romans, on parle d'à peu près combien de livres?
On a imprimé, on a fait imprimer un signe. Mais ça varie hein, à cause du... Comme on vend les livres, là, les quantités qu'on a indiquées, elles sont faites exactes. Pour te donner une idée, là, en format de poche, Normand avait à peu près 4 500 livres en format de poche. En religion, environ 4 000. En ésotérisme, 1 000. Des romans, il y en avait 2 500 à peu près. Puis ça comprend pas l'entrepôt où on en a à peu près 5 à 6 000. Là, c'est pas compté. En tout cas, oui, histoire, on a à peu près 1 800, les essais à peu près 2 000, psychologie. En philosophie, c'est ça qu'on a vendu le plus, c'est les premiers livres qui sont partis.
Ah, oui.
Là, parce que c'est plus difficile à trouver des livres de philo d'occasion, parce que ceux qui ont des livres de philosophie, en général,
ils
s'en débarrassent pas. Fait qu'il nous en reste à peu près 150 en philosophie. En livres d'art, on en a à peu près 200. On a un peu de tout, santé, des livres de santé, loisirs, ça sent. On a des livres pour la jeunesse, des livres d'enfants, on a des livres québécois. Les livres québécois, on en a peut-être pas loin de 1000. On a un peu tous les genres, on a à peu près 400-500 livres en anglais. On a une section spécifique de livres anglais, mais en général, il y en a à peu près dans les sections de livres français aussi, il y en a quelques-uns. Il y a une personne qui est venue ici, là, puis qui nous a dit, « Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois autant de livres et autant de bons livres. »
C'est vrai. La première fois que je suis venu, je ne m'attendais pas à ça, mais je me suis attardé dans la section québécoise, puis il y avait quand même beaucoup de bons livres. J'ai pas bougé beaucoup. Après, je me suis déplacé, puis je suis tombé sur la section religion et ésotérique, puis je me suis dit, « Ouf, non, il va falloir que je revienne parce que j'ai pas fini de me promener. »
Il y a des clients, ça fait 5, 8, 10, 12 fois qu'ils viennent.
Ah oui, c'est...
Mais il reste toujours encore des bons livres parce que normalement, il était sélectif. Même quand il nous en restera seulement 10 000, mettons,
ça va être encore
des bons livres.
Ouais.
Encore
de toute façon, les gens ont des goûts différents.
Oui, c'est ça. Ouais.
Mais moi, je dois dire que la première fois que je suis venu, quand je suis ressorti de là, j'y croyais pas encore. Si c'était pas du fait que j'étais en pause lunch, je serais resté beaucoup plus longtemps.
Mais même moi, là, à chaque fois que je descends au sous-sol, là, j'ai comme des frissons. J'ai jamais vu autant de livres, moi aussi.
Surtout en bas, ça a un aspect un peu de bibliothèque.
Mais quand, la première fois, je suis arrivé ici, par exemple, après son décès, puis il était exposé, puis que le lundi, je suis arrivé ici, j'avais pas la même impression. Hein, mais, j'étais découragé.
Non, mais c'est beau, c'est bien classé, effectivement.
Combien de temps vous pensez que ça va prendre pour vendre toute la collection Normand-Leduc?
Mon frère, ça lui a pris 60 ans. Il en a acheté de 15 ans à 75 ans, puis avant son décès, quelques jours avant son décès, il achetait encore des livres. Alors, c'est pour te dire. Il fait que ça lui a pris 60 ans pour... ici, là, le 25 000 livres, là, c'est l'équivalent d'achat d'un livre par jour pendant 60 ans.
Okay, c'est ça.
Fait que nous, si on vendait seulement un livre par jour, ça nous prendrait 60 ans. Mais on en vend plus que par jour. Non, ça va prendre quelques années,
ouais.
Parce qu'on n'est pas sur une rue commerciale, puis la publicité est tellement chère qu'on a décidé de ne pas en faire. On trouvait que c'était trop cher, ça n'a aucun sens.
C'est plus le bouche à l'oreille.
Oui. Les passants, puis les passants, bien, ils en parlent à d'autres.
Ouais.
Puis c'est comme ça, le bouche à l'oreille, qu'on développe notre clientèle. Puis Martin, il m'a dit, « Ah, dis-moi, je ne suis pas pressé, ça prendra le temps que ça prendra. » Puis j'aime ça parce que... Un livre, là, quand il reste 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans sur une tablette, c'est comme un orphelin qui a hâte d'être adopté pour sortir de l'orphelinat.
Moi, de ceux que j'ai achetés, je suis parti avec particulièrement satisfait. Je vais les lire, mais en plus de ça, j'ai trouvé qu'ils étaient splendides. C'était comme des trésors parce que je m'attendais pas à trouver ça en plus. Puis surtout, c'est ça, moi, je passais dans la rue puis j'ai vu la pancarte. J'avais aucune idée que ça ressemblait à ça.
C'est rare. C'est un petit peu exceptionnel.
Je pense que oui, ça doit pas exister. C'est assez exceptionnel.
Non, parce que il faut dire qu'en plus d'être dans le monde du livre puis d'être collectionneur, il était un peu amasseur compulsif. Parce qu'il y en a qui vont se monter une bibliothèque, mais ils se contrôlent. Ils mettent pas tout leur argent dans l'achat de livres. Mon frère a mis pratiquement un très fort pourcentage de ses revenus dans l'achat des livres. Il aurait aimé, mon frère, là, avoir acheté tous les livres des librairies à Montréal puis être capable de rentrer ça dans son logement. Et on appelle ça, si tu veux, le syndrome de Diogène. Diogène, dans la légende, non, quand il nous le représente, il est sur le bord de l'océan, il y a un baril, puis il voudrait, avec son gobelet, il prend de l'océan, puis il remplit ça dans son baril. Il aurait voulu mettre toute l'eau de l'océan dans son baril. Mais Normand, lui, il aurait voulu mettre tous les livres qui existent dans sa maison. C'est le fun parce que les gens qui sortent d'ici, ils sont contents. Là. La plupart sont contents. Là. Ils ont acheté des... Puis les prix sont raisonnables. Le prix que j'ai fixé dans le livre, je l'ai basé sur le prix que des livres qu'on peut trouver au Chénon, par exemple, ou à Renaissance, et dans les librairies
d'occasion, de livres usagés. Fait que j'ai fait un prix entre le prix du Chaînon et une librairie de livres usagés. J'ai essayé de faire ce prix-là. En moyenne, c'est pas scientifique, là, mais j'ai fait à peu près, si je fais une moyenne de réduction sur les livres, c'est à peu près 62, entre 62 et 65 % de réduction. C'est la minorité des livres qui sont à 50 %. Pratiquement la majorité là, sont à 60, 65, 70, 75 % de réduction.
C'est des prix qui sont quand même très raisonnables. Là. La seule chose qui est difficile, c'est de faire une sélection puis respecter son budget.
La plupart des gens, je le vois, parce que ils font une sélection de livres, là, puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils en ont trop pris. Fait que là, souvent, je demande aux gens, bon, mais ceux que vous ne voulez pas, laissez-les sur les tablettes, là, laissez-les sur les comptoirs, laissez-les pour que je puisse les replacer moi-même. Fait que quand, à 5 heures, je ferme la maison, qu'il n'y a plus de clients, là, je vais voir, puis là, je vois beaucoup de livres qui ont été laissés de côté. Ça veut dire que c'est des livres qu'à un moment donné, les gens se sont dit, ah, ben là, il faut que je fasse une sélection, j'en ai trop pris.
Ça m'est arrivé.
Mais en général, les gens, ils sont sortis, puis ils étaient contents. Puis la preuve qu'ils étaient contents, bien, ils nous envoient d'autres clients. C'est plaisant de voir que quand les gens trouvent un livre, comme hier, c'est dimanche, il y a une fille avec sa copine, ils sont venus. Puis là, elle a vu la colère. Ah, oh, vous avez des livres de biographie des femmes, vous vendez ça 5 $. Il m'en manque deux dans ma collection. Puis ça, il y en a à peu près 30 dans une collection complète. Elle a trouvé les deux livres qui lui manquaient. Elle a dû voir le sourire. J'ai trouvé les deux livres qui me manquent.
Ça, c'est le fun, parce que parfois, c'est pas tout à fait évident de trouver là, un numéro dans une collection, là, comme par exemple les Agatha Christie, là, les hardcover bleus. Là. Ils existent encore, mais de toutes les retrouver, c'est pas si évident.
Oui, ouais. J'avais la collection complète des Maigret, 41 volumes. Mais je les ai mis quand même en vente séparée parce que c'est tellement populaire, les Agatha Christie, que les gens en ont déjà quelques-uns. Ça m'aurait pris beaucoup de temps avant de vendre les 41 volumes, alors que là, les gens achètent puis complètent leur collection. Sur ça, je les ai mis séparément. Ouais. Puis ils sont en bon état, là. Ils sont pratiquement à l'état neuf aussi. Le fait qu'il n'ait pas lu une très grande majorité de ses livres, mon frère, puis qu'il les ait jamais passés à quelqu'un d'autre, bien, ils sont restés à l'état de neuf. Puis surprenant, j'ai été surpris, moi, que ces livres empilés les uns sur les autres, j'ai eu aucune perte. Parce que quand tu vois des livres de 20, 25, 30, 35 $, là, tu dis ça aurait été de valeur.
Non, ils n'ont pas pris l'humidité.
Non. On n'a pratiquement pas eu de perte. On en a perdu peut-être 150, là. Qui était trop détérioré, moi.
Vous, justement, qui êtes également un passionné de littérature puis de lecture, hein, est-ce que dans la collection, il y a des livres qui vous intéressent particulièrement? Est-ce que le soir, quand vous repartez, vous prenez des livres pour lire à la maison?
Je suis un peu comme Normand, sauf que je les achète pas comme Normand. Je m'intéresse un peu à tout. Moi, je vais lire à peu près tous les genres de livres, sauf peut-être des livres que pour moi, ils sont pas. Il y a des livres de science que je ne lirai pas parce que je les comprendrai pas. Mais en général, je lis à peu près tous les genres de livres. Même des romans d'amour. Je lis des romans d'amour. J'ai commencé à lire, moi, quand j'étais à l'école normale, Jacques Cartier, en deuxième année. Parce que moi, j'ai détesté les livres, comme Martin un peu a détesté les livres. Puis je vais t'expliquer un petit peu pourquoi, comment c'est arrivé. Un Normand, il s'est marié assez âgé. Il était vieux garçon. Il s'est marié, il a eu un enfant. Puis il avait pris ses habitudes de vie. Puis même une fois marié, je me suis rendu compte qu'il avait vécu un peu de la même manière que lorsqu'il était vieux garçon qui était célibataire. Il y a des fois, Martin, il aurait aimé ça jouer avec son père. Mais Normand, il aimait tellement lire que quand il arrivait à la maison, il en profitait pour lire. Souvent, il descendait au sous-sol, puis il disait... Fait que Martin, c'est peut-être inconscient, il en est peut-être arrivé à détester les livres. Sa frustration, il a focusé sur les livres. Parce que moi-même, quand j'ai vécu avec Normand, il m'a fait détester les livres. parce qu'on avait seulement un an de différence. Mon frère, il était le plus vieux. Puis un an de différence, c'est pas beaucoup. Fait que, puis moi, j'aimais tellement jouer quand j'étais enfant. Puis lui, il voulait pas jouer. Dès qu'il a commencé à apprendre l'alphabet, puis qu'il a appris à lire, il s'enfermait dans sa chambre. Puis il était jeune, là, 8 ans peut-être, 9 ans. Il s'enfermait dans sa chambre, puis il lisait, puis il voulait jamais jouer. Fait que moi aussi, j'ai détesté les livres. Ouais. C'est seulement à l'école normale, Jacques Cartier, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu un professeur de littérature là, qui était tellement passionné puis passionnant que là, j'ai commencé à aimer les livres.
Ah oui, OK. Ça a quand même pris du temps.
Ça a pris du temps à débloquer. Et moi, je me souviens, là, je lisais à peu près un livre par jour quand j'ai découvert la lecture. Ouais. Parce qu'avant, mon frère, il m'a fait assez détester les livres, là, que je voulais rien savoir des livres. Au fond, l'humain, il n'est pas fait pour aller aux excès. On peut faire chercher l'excellence, mais pas aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, là, ça, on n'est pas fait pour ça. Ceux qui font les excès, ils en payent le prix. Si ce n'est pas eux qui en payent le prix, c'est d'autres.
Alentour.
Puis ça, c'était un des effets nocifs que les livres ont eu sur Normand, sur Martin, puis sur moi quand j'étais jeune. C'est quand je voulais jouer. De toute façon, j'essayais, des fois je l'achalais, puis là, ben, il se plaignait à ma mère, je me faisais chicaner. Puis il était tellement tranquille, Normand, que ma mère, elle préférait. Elle a eu deux enfants, puis moi, j'étais un bon garçon, mais j'aimais jouer. Puis ma mère était très malade. Ma mère mesurait peut-être 5 pieds. Elle faisait 90 livres, peut-être. Elle faisait 250 de pression. On est supposé de faire... Normalement, au poids qu'elle avait à grandeur, sa pression, ça aurait dû être à peu près 120.
Okay. Ouais.
Nous autres, c'est à peu près 140. C'est normal. Mais quand tu es rendu à faire... Elle avait mal à la tête 24 heures par jour, ma mère.
Ça vient jouer sur la patience.
Oui. Puis Normand, ben, il était tranquille. Elle l'aimait bien gros.
Moi, c'est pas du tout. C'est ça, tout turbulent.
Ouais. Mais c'est bon, ça. C'est fait. L'enfance, c'est fait pour ça. Là. C'est pas normal, un enfant qui s'enferme dans sa chambre pour lire toute la journée.
Moi, je pense que ça s'est développé plus tard aussi. J'ai pas l'impression. Tu sais, j'ai commencé à aimer lire. Je pense que je devais être. Au niveau du secondaire, quand j'ai découvert les livres qui m'intéressaient, parce que les livres qu'ils imposaient à l'école, ça rendait la conception de la littérature difficile. Ah, oui.
Moi, quand j'enseignais, j'avais parti un club de livres dans toute l'école.
Ah oui?
Puis à l'époque, j'achetais mes livres à la librairie tranquille, parce qu'il était le seul qui achetait des livres, puis il ne s'occupait pas de l'index.
Okay.
Toutes les autres librairies à Montréal, là, quand tu allais acheter des livres, je te parle dans les années 60, là, avant la Révolution tranquille, les autres qui achetaient des livres, ils recevaient les commandes, parce qu'à l'époque, dans les années 50-60, c'était les institutions religieuses qui contrôlaient tous les hôpitaux, toutes les écoles. Fait qu'imagine leur pouvoir d'achat quand ils achetaient des livres, c'était énorme. Fait que les libraires, ils pouvaient... pas vivre sans les communautés religieuses, alors ils ne vendaient pas de livres à l'index. Pour ne pas perdre les commandes des communautés religieuses. Tranquille, quand il a parti sa librairie, il était le seul qui vendait des livres qui étaient à l'index.
Okay.
Il était connu, là, c'était un des libraires les plus célèbres qu'on a eu au Québec, la librairie Tranquille. Moi, quand j'enseignais, ben j'avais parti un club de livres, mais seulement des livres de poche. Je donnais une liste de livres, là, puis le professeur qui enseignait le français dans les classes, il faisait cocher par les élèves le livre qu'il voulait. Puis moi, je reprenais toutes ces feuilles-là, j'allais voir tranquille, puis là, il me fournissait un livre.
Okay.
Puis à l'époque, ben, il était pas cher, là, c'était 1$ du livre. Puis le livre que j'ai vendu le plus, je pense, à une centaine d'exemplaires, peut-être 120 exemplaires, c'était L'homme invisible de H.G. Wells.
Okay.
C'était tout un petit peu... J'essayais de trouver des livres qui pourraient intéresser des adolescents.
C'est L'homme invisible,
Oui, la série qui a passé à la télévision.
Et c'est ce qui conclut mon entrevue avec Michel Leduc. On a continué à jaser, mais on s'éloignait un peu du sujet principal. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Moi, pour ma part, j'ai adoré ma rencontre. Il ne serait pas impossible que M. Leduc revienne éventuellement parler d'un autre sujet au podcast, pourquoi pas. Comme par exemple, un sujet qu'on a abordé rapidement dans l'épisode, mais qui est très intéressant, l'influence et le contrôle qu'a eu l'Église catholique sur la vie des Québécois à l'époque, et qui a duré quand même assez tardivement, là, jusque dans les années 60-70. Ça fait longtemps que je caresse l'idée de faire un épisode sur le sujet. Donc, évidemment, je vous conseille d'aller voir sur place au 5175 4e Avenue à Montréal. C'est ouvert du jeudi au dimanche, de midi à 17h. D'ailleurs, si vous allez faire votre tour, écrivez-moi via YouTube pour me dire quel trésor vous avez débusqué. Je suis très curieux. Bien entendu, un gros merci à Michel ainsi qu'à Martin, le fils de Normand Leduc, pour avoir rendu cet épisode-là possible. Puis avec tout ça, mes nombreuses visites et mes rencontres avec Michel m'ont amené à méditer un peu sur ma propre relation avec mes livres. Comme beaucoup d'entre vous probablement, j'accorde quand même beaucoup d'importance à ma bibliothèque. D'une certaine façon, c'est un peu comme une extension de ma personnalité. Après tout, ça représente quand même mes intérêts puis mes goûts. Mais est-ce que c'est ma façon de m'afficher comme personne ou c'est plutôt un havre de paix pour moi, un refuge personnel de connaissances? Si certaines personnes essaient de prouver leur intellect par une bibliothèque bien remplie, je ne pense pas essayer d'impressionner quiconque avec la mienne. J'imagine donc que c'est un peu plus comme un havre de paix. C'est peut-être matérialiste. Comme dirait ma femme, mon petit bonhomme de Sim y est heureux quand il regarde sa bibliothèque. Mais dans le fond, est-ce que j'achète plus que ce que je peux arriver à lire? C'est quand même le problème de plusieurs bibliomanes. La parole de Michel résonne encore dans ma tête. Un livre qui traîne sur une étagère, c'est comme un orphelin qui attend d'être adopté. Bon, évidemment, si j'achète un livre, c'est qu'éventuellement j'ai l'intention de le lire. Mais la question que je me suis posée, c'est parmi mes livres, est-ce qu'il y a beaucoup d'orphelins qui attendent d'être adoptés? J'ai décidé de m'attarder sur la question. Je voulais des stats, quelque chose de tangible. C'est un exercice que je vous conseille. J'ai donc téléchargé une application qui me permet de classifier toute ma bibliothèque et d'obtenir toutes sortes de statistiques. Ça permet entre autres de quantifier les différents styles de votre collection et aussi d'établir une valeur approximative de votre bibliothèque. Ça peut être pratique pour les assurances. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que je voulais savoir la quantité de livres qui avaient déjà été lus dans ma collection. Pour ma part, j'ai lu 29,9% de ma collection, ce qui laisse quand même un 66% de livres qui n'ont pas encore été lus, et une lecture en cours de 4,2%. Bon, je ne sais pas si l'exercice était tant utile, mais je vous le conseille, c'est très informatif. Et c'est sur cette réflexion que je termine l'épisode. Dans le prochain épisode, je m'intéresse au grimoire « Les secrets admirables du Grand Albert ». Et vous allez voir, c'est à ne pas manquer, c'est assez cocasse.